Bonsoir à tous, nous voilà à la, je crois c'est la quatrième prédication sur au sujet du Saint-Esprit. Et ce soir nous allons faire quelques lectures. On va commencer dans Jean chapitre 12 verset 46, l'évangile de Jean verset 12, non chapitre 12 verset 46. Je vous fais la lecture. Où est-ce qu'il est ce verset 46 Voilà, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles, a déjà un juge. La parole que j'ai dite le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de mon propre chef, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je vais dire, ce que je devais dire et comment le dire. » Jésus, je te prie de nous aider à saisir ta pensée, afin que nous soyons en ordre avec toi d'une façon claire, que nous soyons non pas dans un flou artistique, spirituellement planant, mais que ça soit très pratique. Merci Jésus. Amen. Alors l'autre jour, je vous parlais de la vérité, et je vous disais, Jésus est la vérité. Et la vérité est composée d'une multitude de faces, et chaque face est parfaite, et chaque face parfaite est elle-même composée d'une infinité de facettes parfaites, et cela à l'infini, parce qu'il est Dieu. Alors, la vérité sous forme de parole révélée est ce que nous pouvons produire de plus beau. Mais ça peut nous limiter, parce que les mots ont leurs limites, et puis on les comprend des fois un peu de travers. Étant créé à l'image de Dieu, alors on peut s'exprimer, nous pouvons exprimer une parole de vérité puissante et créatrice. Notre parole est créatrice, comme la parole de Dieu est créatrice. Mais notre parole peut être aussi dangereuse. Pourquoi dangereuse ? Parce que la parole de vérité, une seule parole de vérité, une seule, est insupportable pour les esprits faux. Une telle parole va produire leur tourment. Et vous pouvez vous attirer des ennuis. C'est pas facile, n'est-ce pas? Jésus dit, ce sont mes paroles qui vous jugeront. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est le quatrième enseignement au sujet du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a inspiré les Écritures, cette Bible que vous avez, et si vous n'en avez pas une, il faut absolument que vous vous en procuriez une. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, et nous ne pouvons pas traiter les Saintes Écritures avec désinvolture ou nous permettre de l'interpréter à notre guise. Ce qui est écrit vient de Dieu pour notre instruction. Et je vais vous lire un texte dans 2 Timothée 3, 16. Voilà ce qu'il est dit. « Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu, est utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. » Vous comprenez pourquoi je vous dis tellement que c'est important de connaître la parole de Dieu, parce qu'elle est inspirée par le souffle de Dieu. Elle est utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché. Il y a des gens qui pensent que ceci ou cela n'est pas péché, que voilà, maintenant les mœurs ont évolué, et que gna 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 gna. Non. Un péché, c'est un péché. Corriger les fautes, former à une vie droite. Vous voyez, le souffle de Dieu est la vie de notre nouvelle vie. Il faut lui laisser la place pour qu'il puisse agir au travers de nous. Jésus veut prolonger ses jours au travers de nous. Quand il vient habiter en nous, c'est pour prolonger ses jours au travers de nous. Le Saint-Esprit est la puissance pour être témoin, vous vous rappelez, je vous ai dit ces choses, mais être témoin, ce n'est pas que de parler de Jésus, ni même de faire des miracles en son nom, il y a des gens qui font des miracles en son nom et qui seront rejetés, c'est surtout manifester le caractère de Jésus. C'est ça, être témoin. Et là encore, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut nous transformer. On peut essayer de se transformer soi-même. Bonjour les dégâts. Comme je dis toujours, chasse le galop, il revient au, au naturel. Vous connaissez le petit proverbe, hein? Chasse le naturel, il revient au galop. Ces chrétiens légalistes qui s'efforcent, n'est-ce pas, tout le temps. Et... Non, il faut que le Saint-Esprit nous transforme. Et il veut le faire, hein? Il veut le faire. Quand le Saint-Esprit est vivant dans une personne, il porte un fruit, c'est-à-dire il y a quelque chose qui mûrit, quelque chose qui se produit, un fruit qui est produit en nous, un fruit un peu comme une orange, un fruit avec plusieurs quartiers. En fait, la Bible nous parle de 9 quartiers dans ce fruit. 9 parts. Vous savez, quand vous épluchez une orange, ensuite vous la découpez, il y a des quartiers. Eh bien, le fruit du Saint-Esprit, il y a 9 quartiers. Et on va parler de ça à partir de ce soir. Ce fruit est la vie nouvelle qui se développe en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais il doit développer, il doit produire ce fruit, qui est en fait le caractère de Jésus, qui est à l'opposé du caractère de l'humain en général. La nature de Jésus va se développer en vous, en nous. On va faire une lecture dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Voilà ce qui est dit là. La puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin quant à la vie et à la piété, nous faisons connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et bonté, c'est-à-dire à Jésus. Par elle, il nous a accordé les promesses les plus précieuses et les plus importantes, afin qu'en les recevant, qu'en les acceptant, vous deveniez participants de la nature divine et que vous puissiez échapper à la corruption qui est dans le monde à cause des mauvais désirs. On a tous des mauvais désirs. En recevant le Saint-Esprit de Jésus en nous, nous commençons à devenir participants à la nature divine pour pouvoir échapper aux mauvais esprits qui règnent dans ce monde et puis à nos désirs charnels, à nos penchants, vous en avez ceci ou cela, vous avez toutes sortes de trucs qui sont pas bons. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est un fruit qui vient, qui grandit, qui mûrit. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes une nouvelle créature, c'est vrai. L'apôtre Paul dit « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». On trouve ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais il y a des versions qui sont un peu plus précises et qui disent « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». C'est quelque chose qui se produit petit à petit, plus ou moins rapidement, selon aussi le degré de notre consécration, de notre soumission à la parole de Dieu. Alors il y a un avant et un après. Il y a un moment où vous avez pris une décision. Et à partir de cela, eh bien, les choses changent. La décision de se convertir, c'est-à-dire de se donner à Jésus, pas de changer de religion, c'est pas de ça dont on parle, mais de se convertir à Jésus, de se donner à Jésus, de marcher avec Jésus. Notre vie d'avant, elle est décrite dans Galates, c'est l'apôtre Paul qui écrit, dans Galates chapitre 5, verset 19-21. Et attention, vous allez vous reconnaître, et moi aussi. Galates 5, 19-21. La manifestation de notre vieille nature, c'est-à-dire de la nature, de notre nature personnelle, de ce que nous sommes humainement parlant, c'est pas brillant, vous allez voir. La manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec le culte, les dissensions, les querelles, les jalousies, les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde, comme je l'avais déjà fait, ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. On est tous foutus. Parce que on a tous quelque chose là, ces mauvais désirs qui viennent notre cœur, c'est même pas le diable, même le diable n'est même pas obligé de nous tenter, c'est en nous-mêmes, voilà. Et alors on se dit, on est fichu, grâce à Dieu, non, parce qu'il est venu pour nous pardonner, et pas seulement nous pardonner, mais aussi nous transformer. On va voir ça. Alors nous avons une vie nouvelle ayant le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce que Paul dit dans la suite, Galates 5, 22, il dit, mais le fruit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit produit en vous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Il n'est rien dans la Torah, dans la loi, qui s'oppose à de telles choses. Alors, que fait le Saint-Esprit quand il vient habiter en nous? Eh bien, c'est écrit toujours dans la lettre aux Galates. Vous voyez, c'est important de connaître les Écritures. Galates 5, 16, 17. Voici donc ce que je veux dire. Paul dit, hein. Voici donc ce que je veux dire. Conduisez vos vies selon l'esprit. Alors, vous ne serez pas soumis aux désirs de votre vieille nature. Car la vieille nature désire ce qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit désire ce qui est contraire à la vieille nature. Qui va me dire le contraire? Ils sont opposés l'un à l'autre. Tellement que vous êtes incapable de mener à bien vos propres intentions. Vous avez, on a tous, oui, je veux plus faire ci, je veux plus faire ça, je vais vraiment. Vous êtes incapable de mener à bien vos propres intentions, vos bonnes intentions. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la loi en légalisme. Alors, que fait le Saint-Esprit quand il vient habiter en nous? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre en nous si nous le laissons agir, si nous lui donnons l'autorité pour agir, si nous nous soumettons. La Torah, la loi, l'écrit qui enseigne la loi, c'est impossible à vivre. C'est impossible à vivre. La loi nous a tous enfermés dans le péché et dans la mort. On ne peut pas. Mais attendez. Même sans le diable, on peut pas. Le diable n'est même pas obligé de nous tenter. C'est nous-mêmes, nos pulsions, nos désirs, etc. C'est ce que nous venons de lire, non? C'est dans la Bible. Et malheureusement, trop de chrétiens sont légalistes, c'est-à-dire ils se forcent à être purs et puis ils échouent, ils se forcent encore, ils échouent tout le temps et alors à la fin ils se découragent et il y en a même qui abandonnent parce qu'ils disent c'est pas possible. Or, ce n'est pas ainsi que ça doit être fait. C'est par notre humble soumission au Saint-Esprit qui vit en nous que le Saint-Esprit lui-même produit la sainteté. C'est lui qui va produire la sainteté. Déjà, nous nous mettons à part par une décision. Seigneur, tu vois comment je suis, j'y arrive pas, aide-moi, je prends la décision ferme de te suivre, de te servir. Viens à mon secours, aide-moi. Je veux manifester ton caractère, je veux manifester ta sainteté, je veux manifester ta pureté, je désire cela. Je veux pas manifester ce que ma vieille nature désire, je veux plus. Eh bien, ça, c'est votre part. Et le Saint-Esprit de Jésus en vous a le pouvoir de changer même vos affections, c'est-à-dire ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous... On va lire Romains. On est compte, ça fait plus de 2000 ans que c'est écrit, et qui enseigne ces choses? Bon, pas grand monde, hein. Romains 8, 1. Je vous lis. Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua, avec Jésus. Vous êtes en union avec lui, vous êtes repenti, vous êtes fait baptiser par immersion, tel que c'est écrit, vous avez reçu le Saint-Esprit, et maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua. Et Paul dit, pourquoi? Et il donne la réponse. Parce que la Torah de l'Esprit, la loi de l'Esprit, il y a une loi de l'Esprit, tout marche avec des lois. La loi de l'Esprit Saint, qui produit cette vie en union avec le Messie Yeshua, avec Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois. Il y a la loi de l'Esprit et il y a la loi du péché. La loi de Moïse, c'est la loi du péché. Fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas être condamné. Faut faire ça, faut faire ci. Eh bien, je répète, la Torah de l'Esprit qui produit cette vie en union avec Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Mais c'est très profond, ça. Il est en train de dire que la Torah de Moïse, la loi, ne pouvait pas accomplir par elle-même notre sanctification, notre purification, notre délivrance de la nature pécheresse, parce qu'elle manquait de puissance pour agir sur cette nature. C'est pas parce que Dieu nous dit « tu vas aller en enfer si tu fais ça » qu'on va arrêter de le faire. On ne peut pas. Il dit « vous êtes incapable ». Vous ne pouvez pas. La loi, elle ne vous rend pas capable. Elle vous met dans la condamnation. Mais Jésus a envoyé son propre Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse, c'est-à-dire avec des désirs aussi. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, c'est-à-dire comme toi. Tes tentations à toi, il les a eues. Tu vas dire, oh, c'est pas possible. Si, 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 si. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, sans péché. Être tenté, c'est pas pécher. Notre nature pécheresse a des penchants, des désirs. Jésus avait tout ça. Il n'y a rien qui l'étonne. Dieu a fait cela afin de punir le péché, de sorte que c'est dans la nature humaine qu'il a exécuté le châtiment contre notre péché, contre le péché, afin que les préceptes justes de la loi de Moïse soient accomplis en nous, qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. Alors, je paraphrase. Dieu a envoyé son Fils afin que son Fils soit puni à notre place dans une chair comme la nôtre. Et il a exécuté le châtiment contre le péché en laissant Jésus mourir sur la croix, afin que les préceptes qui sont justes, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, toutes ces lois, tout, ils sont justes, afin que ces préceptes de la loi soient accomplis en nous. Qu'ils ne vivons plus selon les désirs de notre vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. Nous ne voulons plus vivre selon les désirs de notre vieille nature. Nous voulons suivre la volonté de l'Esprit. Nous le voulons. Alors il nous en donne le pouvoir. Je continue, en effet. Ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont leur pensée tournée vers les choses qui concernent la vieille nature. Ça veut dire quoi? Si par exemple, vous êtes tenté par l'alcool, eh bien vous allez dire, ah, moi mon péché c'est l'alcool, c'est comme ça, je suis un alcoolo, j'ai essayé d'arrêter, j'ai recommencé, l'air. Vous vous identifiez, vous dites, je suis un alcoolo. Si vous êtes un homosexuel, la même chose. Si vous êtes, peu importe, un menteur ou un médisant ou tout ce que vous voulez, c'est plus fort que moi, c'est ma nature, je m'identifie à ça, je suis comme ça, j'y peux rien, c'est pas ma faute, je suis né comme ça, et ben voilà. Eh bien, je relis. En effet, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont leur pensée tournée vers les choses qui concernent la vieille nature. Vous pensez qu'à ça. Et puis il continue, il dit l'apôtre, si vos pensées, mais ceux qui s'identifient à l'Esprit de Dieu, ont leur pensée tournée vers les choses de l'Esprit. Si vous identifiez à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire si vous pensez, voilà, je suis un fils de Dieu. Pas je suis un alcoolique ou un ex-alcoolique ou un ex-drogué ou un ex-ceci ou je fais des efforts. Non, si vous vous identifiez non pas à votre vieille nature qui a des désirs, non, si vous vous identifiez au Saint-Esprit, si vous croyez vraiment que vous êtes un enfant de Dieu, vos pensées se tournent vers les choses de l'Esprit et ça produit quelque chose en vous. Il continue, verset 6, « Si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, que vous y pensez tout le temps, que ça vous obsède, que vous dites « je suis foutu, j'arriverai jamais, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. » Si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'esprit, c'est la vie et le shalom, c'est-à-dire la paix. Par qui voulez-vous être contrôlé ? Puis il continue, verset 7, « Car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont en inimitié contre Dieu, c'est-à-dire elles sont ennemies. » En effet, elles ne se soumettent pas à la Torah de Dieu, elles ne le peuvent même pas. Vos pensées ne peuvent pas, votre nature ne peut pas, elle ne le peut même pas. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Vous ne pouvez pas par vous-même vous en sortir, c'est pas possible, il le dit. Vous ne pouvez pas. J'aimerais vous faire rentrer ça à coup de marteau dans la tête pour que vous le compreniez bien. Or, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Ne peuvent pas, c'est pas possible. Mais, vous, il continue, vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit de Dieu. Bon, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Qu'est-ce que c'est avoir l'Esprit du Messie ? C'est l'avoir invoqué, c'est lui avoir demandé du secours. Il a dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. D'autre part, Si le Messie est en vous, le corps, d'une part, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, d'autre part, donne la vie parce que Dieu vous estime juste. C'est-à-dire votre corps est mort, c'est-à-dire quand Jésus est mort, c'est vous qui êtes mort. Mais si le Messie est en vous, le corps, d'une part, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, d'autre part, donne la vie parce que Dieu vous estime juste. Donc votre corps reprend vie, mais avec les désirs de l'Esprit. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités avec lui. Il y a 2000 ans, c'est fait. Il suffit de le croire, de tourner nos pensées là, et non pas vers les échecs. Et il continue, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua le Messie, Jésus d'entre les morts, s'il vit en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus le Messie d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui vit en vous. » C'est-à-dire que votre corps mortel va vivre, va se mettre à vivre avec les désirs qui étaient en Jésus-Christ, les désirs de l'esprit et non pas les désirs de sa chair. Sa propre chair est morte. Vous êtes mort avec lui en même temps que lui. Et vous êtes ressuscité avec lui en même temps que lui. Mais vous devez le croire. C'est ça que vous devez le croire. C'est pas simplement dire, ah ben moi, vous savez, je suis croyant. Bon, vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai toujours été croyant. Moi, je suis croyant. Vous écoutez, puis vous apercevez qu'ils connaissent rien. Parce qu'ils lisent pas la Bible, les pauvres gens. C'est malheureux. En tout cas, moi, ils pourront pas m'accuser de ne pas leur avoir dit de lire la Bible. Écoutez bien, car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont en inimitié contre Dieu, en effet, elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu, elles ne le peuvent même pas. Or, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Mais si le Messie est en vous, le corps d'une part est mort à cause du péché, mais l'Esprit d'autre part donne la vie parce que Dieu vous estime juste. Dieu vous estime juste. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Dieu t'aime, t'estime juste. Pourquoi ? Parce que le prix pour tes péchés, la punition a été payée par Jésus et maintenant il te regarde pas comme un pécheur, il te regarde comme quelqu'un de juste. Est-ce que tu vas croire ça? Ou est-ce que tu vas croire ta vieille nature qui va te dire « Mais non, c'est pas vrai, regarde, t'es toujours tenté, gna 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 gna. » Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus le Messie d'entre les morts vit en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus le Messie d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui vit en vous. Ainsi donc, frères, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Vous le savez, et bien maintenant vous le lui dites. Vous lui dites, j'ai aucun... Je m'écoute. Vous vous dites à vous-même, à votre nature, à votre vieille nature, je n'ai aucune obligation envers toi, je ne suis pas contraint à vivre selon tes vieilles manies pourries que je déteste. Car, puis l'apôtre Paul continue, car si vous vivez selon votre vieille nature, ben vous mourrez certainement, mais si par l'esprit vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Comment est-ce que vous allez faire mourir les pratiques du corps? En croyant que vous êtes aussi juste que Dieu vous voit juste. Vous vous identifiez à l'Esprit de Dieu et non pas à ce mauvais esprit qui vous traîne plus bas que terre. Et il continue. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis fils de Dieu. C'est par la foi. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils par la puissance duquel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Votre Père Céleste, votre Papa, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie, si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous souffrons quoi? Qu'est-ce que nous avons à souffrir? De dire la vérité. Dites-vous à vous-même la vérité. Dites aux autres la vérité. Dit, je suis un fils de Dieu, je fais plus ces choses. Ils vont se moquer, ils vont se marrer. Dites la vérité, verrouillez-vous. Ne vous identifiez plus à ce que vous étiez autrefois, mais au Saint-Esprit. C'est très très fort comme expression, mais c'est très très vrai. Sinon, ça ne serait pas dans la Bible. C'est une question d'identification, d'accepter humblement de renoncer à votre identité déchue. Alors, comment est-ce que ça se produit? Comment ça se produit pratiquement? Jean chapitre 15, verset 1. C'est 12 ou 15? Je ne sais plus. Alors, je vais vous... C'est plutôt 15... Verset 1, voilà, c'est ça. Jésus parlait, il dit, « Je suis la vraie vigne. Et mon Père, c'est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte réellement du fruit, il le taille, il le coupe, afin qu'il puisse porter plus de fruits. » C'est ça qui fait souffrir. Vous êtes dès à présent taillé grâce à la parole que je vous ai annoncée. Restez unis à moi comme je le suis à vous. En effet, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il n'est pas uni à la vigne, de même vous ne pouvez porter du fruit si vous n'êtes pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors moi, vous ne pouvez rien faire. C'est désespérant. Sans Jésus, vous ne pouvez pas y arriver. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. De tels sarments sont ramassés, jetés au feu et oui, brûlent. Terrible, n'est-ce pas? C'est ce que c'est qu'un sarment. Peut-être vous habitez en ville, vous ne savez pas. Allez sur Internet, vous regardez sarment et puis vous allez voir ce que c'est qu'un sarment. Il doit être uni au cep. C'est le cep qui, c'est là qu'il y a la vie qui passe dans le sarment. Si vous êtes uni au cep, ça passe en vous et la vie qui est dans le cep. Jésus dit, je suis le cep, je suis la vraie vigne. Eh bien, ça, cette vie passe en vous et là, c'est vous qui portez du fruit. Le fruit de Jésus. Il se manifeste au travers de vous. Vous voyez, demeurer en lui. Voilà, c'est ça le secret. S'attacher à lui. Comme le sarment est attaché au cep. Le sarment, il tire sa substance, sa vie du cep. Un sarment tout seul, c'est une grande tige, voilà, pouf, c'est rien. Paul dit cela de façon absolument magistrale dans Galates, au chapitre 2. Putain, j'ai dû le trouver. Galates, chapitre 2, verset 20-21. Écoutez bien. On fait beaucoup de lectures ce soir, hein. Il va falloir réécouter pour bien saisir, pour bien comprendre. Lorsque le Messie a été exécuté sur la croix comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Quand est-ce que votre ego a été détruit? Quand Jésus a été exécuté sur la croix comme un criminel. C'est là que vous avez aussi été détruit. Il faut que vous le croyiez. Je relis. Lorsque le Messie a été exécuté sur la croix comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego, mon moi, soit détruit. Mais le Messie vit en moi et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu, la foi du Fils de Dieu, parce que je suis moi-même fils de Dieu, lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas le don généreux de Dieu, car si l'on peut parvenir à atteindre la justice par le légalisme, alors le Messie est mort en vain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, j'ai une foi indéfectible. J'aime Jésus, j'aime la pureté, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est saint. Ma nature me tente, je suis tenté, mais Jésus aussi était tenté en toutes choses et il a résisté et il a remporté la victoire. Ensuite, il est mort sur la croix et quand il est mort sur la croix, j'étais là en lui et je suis mort sur cette croix aussi. Et j'ai une foi indéfectible en cela parce que la Bible me le dit, ce sont les apôtres qui l'ont connu, qui l'ont dit et c'est écrit dans la Bible. Et j'ai la foi, la même foi que celle du Fils de Dieu parce que je suis un Fils de Dieu, moi aussi. Et il m'a aimé, il s'est livré à ma place et je vais quand même pas rejeter ça parce que si je peux parvenir à la justice, à la pureté en observant la loi de Moïse, alors ça veut dire que Jésus est mort pour rien. C'est ça qu'il dit. Je n'interprète pas, je paraphrase. Je mets en français courant ce qui est écrit là. C'est ça la vraie foi. Est-ce que vous saisissez? Vous voyez, qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas juste parler en langue ou manifester des miracles, c'est surtout manifester le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit porte en vous, il y a des résultats, il y a quelque chose qui se produit. On va lire maintenant dans Colossiens, chapitre 1, verset 26. Colossiens, chapitre 1, verset 26. C'est Paul, d'abord au verset 25, il dit « Je suis devenu le serviteur de la bonne nouvelle, conformément à l'œuvre que Dieu m'a demandé d'accomplir pour vous. Cette œuvre est de faire connaître pleinement le message de Dieu. » Donc, son œuvre à lui, c'est de faire connaître le message de Dieu pleinement. Et moi, je suis en train de reprendre ce message, je suis en train de vous le faire connaître. Alors voilà, il continue. « Cette œuvre est de faire connaître pleinement le message de Dieu, virgule, le plan secret qui est resté caché depuis des générations et des siècles, mais qui est maintenant révélé à ceux qu'il a mis à part pour lui-même. » Dieu vous a mis à part pour lui-même. C'est pas pour rien que vous aimez la sainteté. Vous êtes déchiré avec votre vieille nature, mais vous aimez tellement la sainteté, vous aimez tellement Jésus, vous voulez tellement être différent. C'est parce qu'il vous a appelé, lui, il vous a choisi, vous. Alors je relis, le plan secret qui est resté caché depuis des générations et des siècles, mais qui est maintenant révélé à ceux qu'il a mis à part pour lui-même. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce secret parmi les païens, c'est-à-dire nous, les non-juifs. Et voici ce secret, écoutez bien, le Messie est uni à vous. Et c'est en cela que repose votre espérance de la gloire à venir. Quant à nous, nous le proclamons, nous avertissons, nous confortons, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de pouvoir présenter tout homme ayant atteint l'objectif en union avec le Messie. C'est pour cette raison que je peine et que je lutte avec toute l'énergie qu'il suscite en moi si puissamment. Voilà ce que Paul disait. Et il a bien fait son boulot. Et on peut le comprendre. Mais pourquoi les gens ne lisent pas la Bible ? Oh là 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 là. Je vous annonce le secret de Dieu. Pas une religion qui vous dit de faire ceci ou de faire cela pour aller au paradis, comme si on pouvait mériter d'aller au paradis en faisant des choses. Croyez en Jésus. Recevez-le dans votre vie. Il produira lui-même l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de vous-même. C'est ce que nous dit Paul dans Galates au chapitre 5 et verset 22. C'est ce que produit le Saint-Esprit dans une personne qui aime Jésus et qui cherche Jésus et qui reçoit, qui accepte, qui veut, qui demande, qui supplie, qui crie à Dieu, « Oh Dieu, aie pitié de moi et viens vivre en moi, produis en moi ce fruit d'amour, de joie, de paix, de pureté, de patience, de maîtrise de moi. » Le secret est là. Qu'est-ce que c'est le secret ? C'est Christ en vous, Dieu en vous, l'Esprit de Dieu en vous. Et tout ça, ça résulte pas de votre travail, mais de votre foi uniquement, de votre soumission à l'Esprit Saint. Voilà, Seigneur, je me livre entre tes mains. Moi, j'ai essayé, je ne peux pas y arriver. Viens à mon secours, ô Dieu, aie pitié de moi. Et il le fera, petit à petit. Vous aurez peut-être encore des chutes, mais il vous relèvera, il ne vous condamnera jamais. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens vous condamneront, les pasteurs, les curés, les chrétiens, les crétins, tout le monde vous condamnera. On s'en fout de ces gens-là. Qu'est-ce que Dieu pense de vous ? Identifiez-vous à votre Père Céleste qui vous aime. Et le fruit poussera tout seul, par la grâce de Dieu. Et surtout, la maîtrise de soi. Parce que ça, c'est fort, être maître de soi. On va revenir vendredi prochain sur ces choses. En attendant, je vous laisse méditer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à méditer. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écouté ce soir. Et pour eux, c'est du charabia qu'ils n'ont jamais entendu. Je prie pour que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Je crois avoir été simple. J'espère que j'ai été simple. Réécoutez encore, prenez des notes et fortifiez-vous avec les paroles de Dieu. Seigneur, sur ta parole. Vous savez, un jour, Jésus était avec ses disciples sur le bord de la mer, et puis ses disciples avaient été pêchés toute la nuit, et ils sont revenus, ils n'avaient rien ramassé. L'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons, c'était sa profession. Jésus, c'était un charpentier qui n'y connaissait rien à la pêche. Jésus lui dit, qu'est-ce que vous avez pris ? Et Pierre, il dit, rien du tout. On s'est battu toute la nuit, on n'a rien pris. Et Jésus dit, va et jette ton filet du côté droite. L'apôtre Pierre aurait très bien pu dire, ouais, toi, qu'est-ce que tu veux ? T'es un charpentier, qu'est-ce que tu connais à la pêche ? Moi, je suis un professionnel, moi, je sais, c'est pas possible, on peut pas y arriver. Non. Vous savez ce que Pierre a dit ? Sur ta parole, je vais le faire. Et c'est là qu'il y a eu la pêche miraculeuse. N'agissez plus par vous-même, mais faites par la parole de Jésus. Si la parole de Dieu dit ça, c'est que c'est vrai. Dites, ô Dieu, sur ta parole, je vais vivre maintenant. Et il va vous aider à le faire. Et vous allez être vainqueur. Et vous êtes déjà vainqueur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, mon Dieu. Pour ce message, je prie qu'il fasse vraiment du bien à mes frères et sœurs, que ça les aide, que ça les délivre de tous les mensonges du diable et des mensonges de la chair qui crient tout le temps. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Merci.